France Culture, les matins d'été, Julie Gacon.
L'éco-régie d'Orange, Biarritz en été, les francopholies de La Rochelle, le Nice Jazz Festival ou les Sept Collines à Saint-Étienne. Tous les jours, nous sommes allés de festival en festival depuis le début de l'été avec vous, Natacha Triou, et votre journal de la culture. Nous allons les voir, aller les voir d'un peu plus près ces festivals, s'intéresser à leur sociologie, à leur économie, mais aussi à l'apparition de géants dans le secteur du type Live Nation ou AEG qui transforment peu à peu le modèle et peut-être aussi l'esprit des festivals, je ne sais pas. On verra. Bonjour Emmanuel Négrier.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en duplex depuis les studios de France Bleu Hérault. Vous êtes directeur de recherche CNRS, membre du laboratoire CEPEL, Centre d'études de politique de l'Europe latine à l'Université de Montpellier 1. Vous ne manquez pas de festivals dans la région, vous les faites tous ?
Non. Non, ce serait pratiquement impossible humainement, puisque on en parlera sans doute. Pour les mêmes dates et dans les mêmes créneaux artistiques, on trouve parfois une impossibilité de se déplacer à deux endroits différents.
Comment vous faites pour les sélectionner, vous, à titre personnel ? Parce que vous devez y aller, pas peut-être aussi par plaisir, mais aussi pour votre travail, puisque votre métier est d'observer, c'est dresser une sociologie et une économie de ces festivals.
Si on prend par exemple les festivals de musique, on en est à peu près 2300, 2500 festivals en France. Je les sélectionne en fonction de leur typicité a priori, différents types de publics, différentes offres artistiques, peut-être différents modèles économiques aussi, et projets culturels. Mmh. Ça permet aussi d'avoir un échantillon pour l'analyse qui soit suffisamment divers et représentatif.
Bon, vous y allez aussi, entre parenthèses, un petit peu par goût quand même, pour vous faire plaisir.
Absolument.
Vous choisissez aussi en fonction de vos goûts à vous.
Oui, mais je ne vais pas seulement dans les festivals pour observer scientifiquement, j'y vais aussi tout simplement gratuitement pour me cultiver.
Bon, alors on va faire avec vous, Emmanuel Négrier, une petite sociologie du festivalier pour commencer. Évidemment, chaque festival draine son propre public, mais est-ce que vous avez constaté de grandes tendances ?
Oui. Alors, ce qu'il faut dire d'emblée, quand vous avez cité tout à l'heure la liste des festivals que vous suivez, vous avez déjà cité une très grande diversité d'événements, et c'est déjà ce qu'on peut constater, c'est que les festivals, évidemment, sociologiquement, drainent des publics qui sont très très différents en fonction des esthétiques. Il y a trois quarts de femmes dans les festivals de danse, il y a beaucoup plus d'hommes dans les festivals de métal, il y a des réunions plus familiales dans les festivals de musique du monde, et on va plutôt en couple au festival de musique classique et entre amis dans les festivals de rock. Donc il y a des différences sociologiques assez marquées. Mais ce qu'on a constaté quand on a travaillé sur ces festivals, c'est que l'image d'Épinal qu'on avait, c'était en gros que, bon voilà, un festival, c'est une grande famille, hein, c'est des habitués qui reviennent tout le temps, c'est des voraces, ils sont là pendant tout le festival, donc ils assistent à toute la programmation, et puis ils viennent de loin, donc ils font retomber sur le territoire des retombées économiques extrêmement importantes. Et puis on s'est rendu compte que ces trois caractéristiques ne tenaient pas la route.
C'est-à-dire
d'une part, les habitués, il y avait quand même, dans nos études, alors différemment selon les festivals, mais près de 40% de nouveaux publics chaque année. Et même pour des festivals assez anciens, comme les Eurockéennes de Belfort, qu'on a travaillé trois fois, même à la 30e édition du festival, il y a encore 4 festivaliers sur 10 qui sont nouveaux, qui sont jamais venus à ce festival. Donc voilà, ça
c'est déjà... Donc beaucoup de jeunes, j'imagine, aussi parmi ces nouveaux venus.
Beaucoup, beaucoup de jeunes, tout à fait. Beaucoup de jeunes, c'est tout à fait exact, surtout dans ces festivals-là.
Oui.
Après, l'idée que le festivalier s'adonne à toute la programmation, ça tenait pas la route non plus, parce qu'en moyenne, le festivalier qui assiste à plus de la moitié de la programmation, ça représente que 5% du total des publics qu'on a étudiés. Et puis, plus il y a de festivals, et on voit que depuis une vingtaine d'années, il y a de plus en plus de festivals en France et également dans d'autres pays, européens notamment, eh bien, le public se régionalise. Avant, vous vous souvenez de cette image du combiné Volkswagen dans lequel on monte à 15 pour aller faire 2000 km et voir son artiste fétiche. Aujourd'hui, son artiste fétiche, on a de grandes chances de le voir arriver dans sa méga région, dans un grand est, dans un grand sud-ouest.
Donc ce sont des manifestations,
peut-être un peu moins.
Voilà, ce sont des manifestations culturelles qui drainent peut-être un public plus large que les représentations de théâtre ou les expositions temporaires des musées, par exemple. En tout cas, qui ratisse plus large sociologiquement. Voilà. Et qu'est-ce que l'offre de festival et leur relatif succès nous dit de nos goûts à nous ? Qu'est-ce qui marche le mieux ? Les goûts artistiques des Français, c'est quoi ?
Alors, les goûts artistiques des Français, c'est très intéressant. D'abord, on pensait que ces goûts étaient très segmentés, un peu en tuyaux d'orgue, si vous voulez. Je suis un amateur de musique classique et j'aime toute la musique classique. Je déteste le jazz ou le rock, le hip-hop, etc. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a des formes de fragmentation, de d'éclectisme dans les goûts, notamment musicaux, hein, pour se limiter aux goûts musicaux, mais ce serait valable également pour le théâtre ou pour la danse, qui font que les spectateurs ne répartissent pas leurs goûts en tuyaux d'orgue, mais butinent d'un genre à l'autre. Et donc, ce qui nous a énormément surpris, presque amusé, je dirais, c'est que l'un des goûts qui, en 10 ans d'enquête sur le même festival de rock, les Eurockéennes de Belfort, a le plus progressé, c'est le goût pour la musique classique. Alors
même
que toutes les enquêtes montrent qu'il y a un vieillissement des publics de la musique classique avéré. Mais néanmoins, le goût pour la musique classique, alors je ne dirais pas que c'est la musique préférée des festivaliers d'un festival de rock, mais il y a une forme d'acclimatation à certaines musiques classiques. Pas toutes, pas n'importe quand, pas avec les copains, par exemple. On écoute plutôt de la musique classique tout seul, en voiture, par exemple, ou pour redescendre d'une expérience un peu hot. Mais on ne déteste pas pour autant la musique classique. Donc, il y a des formes comme ça, des combinaisons de goûts qui font qu'on aime certains artistes de métal, qu'on peut aimer aussi certaines musiques classiques, qu'on va aimer un artiste hip-hop. Et comme ça, on fait des combinaisons qui sont extrêmement variées. Ce qui alimente ces combinaisons variées, c'est aussi les échanges entre pairs. Le partage des goûts musicaux, l'influence sur ces goûts de personne à personne, se fait par les pairs plutôt que par les institutions, que par l'école, que par les parents.
Et les programmateurs ont aussi...
Il y a une forme là, comme ça, d'horizontalité des goûts.
Les programmateurs ont aussi une responsabilité là-dedans. Est-ce qu'ils doivent donner au public ce qu'il aime ou ce qu'il pourrait aimer ?
Ben,
c'est un
si
sacré
vous voulez,
défi,
quand
ça.
On... C'est évidemment un défi fondamental. Vous citez là une phrase de Jean Villard, prêtée à Jean Villard en tout cas, de ce qu'est une politique culturelle. Il faut évidemment penser que une politique culturelle et la responsabilité d'un programmateur, c'est de donner à écouter ou à voir des choses que les spectateurs pourraient aimer et non pas qu'ils connaissent déjà et aiment déjà, parce que sinon là c'est un peu régressif et répétitif. Et il faut dire que dans le contexte actuel, l'utilisation par exemple des algorithmes tend vers une espèce de facilité, je dirais presque facilité économique, commerciale, de se concentrer sur ce qu'aiment les gens et de leur donner ce qu'ils aiment.
Alors les algorithmes,
mais
parce que les programmateurs utilisent des algorithmes ?
Ils peuvent utiliser aujourd'hui des outils pour savoir ce qu'aiment les publics, ce qui fait le buzz sur les réseaux sociaux, notamment chez les jeunes, sur y compris au sein de certains festivals, quel est le public qui se masse, combien de public se masse devant quelle affiche, de manière à voir si tel artiste a connu un succès et donc le reprogrammer éventuellement plus tard ou pas du tout. Donc il y a quand même des outils qui permettent d'approcher commercialement les publics et leurs pratiques et leurs goûts, de manière à coller le plus possible à ces goûts. Mais je dirais que c'est un peu régressif sur le plan culturel. Et puis c'est tout à fait contradictoire avec l'expérience festivalière. L'expérience festivalière, c'est, on l'a noté, aller à un festival, surtout dans des festivals qui durent 3-4 jours en circuit quasiment fermé, avec le camping à côté, c'est être sûr de venir à ce festival pour 3, 4, 5, 6 affiches, et puis ensuite savoir qu'on va en voir 25, et tout le reste, on le sait pas, on connaît pas. On fait confiance à ses intuitions, à son humeur du moment, aux rencontres qu'on fait, et donc à la logique de découverte qui est intrinsèquement liée à la participation à un festival.
C'est toute la question.
À côté de la fête, oui. Et des substances plus ou moins autorisées.
Un festival de l'offre ou un festival de la demande, c'est un peu la question qu'on se pose aussi aujourd'hui dans l'audiovisuel public d'ailleurs, entre parenthèses, à l'occasion,
oui,
de la réforme.
Fait.
Voilà. Est-ce qu'il y a de mauvais festivals, d'après vous ? Enfin, je veux dire, est-ce qu'on peut se permettre de dire des choses pareilles, par exemple ?
Ben, ça dépend de quel point de vue on se place entre le bon et le mauvais. Est-ce qu'on se place du point de vue de l'audience ? Est-ce qu'on se place du point de vue du risque artistique du festival ? Est-ce qu'on se place du point de vue de son étroitesse sociologique ? Des publics qui sont toujours les mêmes et peu ouverts à de nouveaux spectateurs. On peut dire sur tous ces plans-là que certains festivals sont mauvais. Je ne vais pas vous donner des noms, bien entendu, mais il y a des festivals qui disparaissent parce que, tout simplement, leur public a disparu. Et ils s'en rendent compte quelquefois en changeant les dates d'un festival. Tiens, au lieu de faire ça début octobre, on va faire ça fin novembre. Et 15 jours avant le festival, ben il y a que quelques centaines de réservations, donc le festival est mort.
Et ils s'en rendent compte.
Ils ne le savaient pas, mais il est mort.
Bon, systématiquement, ces festivals bénéficient de subventions tout le temps. Et sur quels arguments, surtout, les réclament-ils ou les demandent-ils ?
Alors, pas systématiquement. Hein. Les festivals ne sont pas tous subventionnés. Par exemple, les Vieilles Charrues ne sont plus subventionnées, l'ont été, mais ne le sont plus. Alors, les Vieilles Charrues bénéficient d'aides indirectes par les pouvoirs publics, notamment les communes. Ça fait partie d'ailleurs d'un modèle économique qui est assez fragile au fond. Hein. On a tendance à penser que les festivals, c'est un peu la success story et donc la poule aux œufs d'or qu'ils pourraient être habiles de plumer. C'est un peu les réactions actuellement du ministère de l'Intérieur qui entend faire payer cash la totalité des coûts de sécurité engendrés par un festival, de manière d'ailleurs extrêmement dangereuse pour l'économie de ces festivals, puisque certains voient les coûts de sécurité augmenter de plus de 100%. Et puis, deuxième problème, c'est que les situations sont totalement inégales selon les territoires. C'est assez amusant, un peu inquiétant aussi, de voir le ministère de l'Intérieur, chargé de l'aménagement du territoire, organiser lui-même l'inégalité des situations territoriales entre les festivals et les préfectures sur les coûts de sécurité. Donc il y a vraiment là un enjeu économique assez fort et une pression sur les fonds publics qui sont orientés vers les festivals. Les subventions pour un festival sont un petit peu en danger. Alors je ne dis pas que tout s'est écroulé pour autant et loin s'en faut. Le modèle français reste un modèle de festival d'économie mixte, avec plus ou moins d'intervention publique, avec une difficulté à attirer des sponsors, des mécènes aussi, mais surtout des sponsors dans toutes les différentes dimensions esthétiques des festivals. C'est la grande différence entre les festivals d'Amérique du Nord, et en particulier du Québec qu'on avait étudié, et les festivals européens. Pas seulement français, d'ailleurs.
Pour plaider leur cause auprès des collectivités publiques à qui ils peuvent demander, au moins tenter le coup, de demander des subventions, l'argument des retombées économiques sur le territoire, évidemment, doit revenir souvent. Est-ce qu'on peut les évaluer, ces retombées ? Vous parliez tout à l'heure du combi Volkswagen qui amène les festivaliers, en tout cas c'est l'image qu'on avait d'avant, mais on imagine aussi un petit peu ces festivals un peu hors sol, avec des opérateurs qui viennent de Paris ou qui viennent de grandes villes et qui arrivent avec des équipes internationales mobilisées seulement pendant la durée du festival.
Oui, c'est vrai que c'est un modèle qui a existé, qui existe encore dans certains festivals, mais la tendance générale qu'on a observée sur maintenant un peu plus de 10 ans, c'est que les festivals deviennent de plus en plus des opérateurs économiques territoriaux. Ils recourent à des ressources locales pour fonctionner, donc leurs dépenses sur le territoire sont croissantes. La part de dépenses sur le territoire, sauf évidemment les coûts artistiques. Hein, la plupart des festivals programment des artistes qui ne sont pas locaux. Donc forcément, leurs coûts artistiques sont externes, ce qui est tout à fait normal et même souhaitable. En revanche, leurs dépenses autres sont de plus en plus localisées. Donc les retombées économiques progressent. Et puis les retombées économiques, elles progressent aussi Alors il faudrait s'entendre sur le territoire de référence dont il est question, mais c'est vrai que les spectateurs, compte tenu de l'augmentation des audiences et de la part non strictement locale de ces audiences, ça profite au territoire, ça lui donne aussi une image de marque. Donc il y a toute une série de valeurs qui sont accordées, des valeurs sonnantes et trébuchantes, des valeurs d'image qui sont attachées à la présence d'un festival sur un territoire. C'est la raison pour laquelle les élus réfléchissent à deux fois à supprimer leurs subventions au festival quand ils se sentent un peu contraints, comme actuellement par le gouvernement, sur le plan budgétaire et financier.
Et ceci dit, est-ce que c'est parce qu'un festival rapporte beaucoup qu'il faut le soutenir ?
C'est précisément ce sur quoi je voulais insister. J'ai fait une petite étude comparative des festivals qui ont de fortes retombées économiques et pour lesquels on peut se poser la question de savoir quelle est leur valeur artistique intrinsèque. C'est toujours délicat de parler de la valeur, mais
et oui, encore une fois,
interviewant
c'est
subjectif. Tout à fait, c'est subjectif, mais c'est en même temps une grille de sélection professionnelle de certains acteurs en particulier. Donc, quand on regarde ce classement des grosses retombées, des petites, et puis qu'on regarde de l'autre côté la colonne des festivals qui sont notables sur le plan artistique et culturel et ceux qui le sont un petit peu moins, on se rend compte que les deux tableaux ne coïncident absolument pas. C'est pas parce que vous êtes un festival qui a de fortes retombées économiques que vous êtes sur le plan artistique extrêmement intéressant. Tout simplement parce que c'est un peu ironique ce que je veux dire, mais moins vous avez de subventions, plus l'euro de subvention accordée va avoir de retombées économiques. Donc c'est extrêmement dangereux, ce serait presque se mettre une balle dans le pied que de dire j'ai de très fortes retombées économiques, puisque j'ai de très peu de subventions et un niveau de dépenses correct. Donc il y a de deux points de vue, du point de vue économique et du point de vue artistique, un petit danger à mettre trop l'accent sur les retombées. C'est un effet, je dirais, induit de l'activité festivalière, mais en aucun cas les retombées économiques ne peuvent servir de critère de sélection d'intérêt général en faveur d'un festival ou en sa défaveur.
Alors vous avez commencé à évoquer, et on aura le temps de développer tout à l'heure, vous avez commencé à évoquer les conséquences d'une certaine d'un modèle économique sur une certaine standardisation de l'offre, l'apparition d'une concurrence, vous parliez d'algorithmes et que les programmateurs commencent à utiliser les algorithmes pour définir une programmation, la programmation qui se répète de festival en festival. Vous résumez tout ça et vous avez quelques instants pour nous le développer dans une notion que vous appelez événementialisation de la vie culturelle et sociale. De quoi voulez-vous parler ?
Tout simplement du fait que il y a beaucoup d'activités qui sont traditionnellement marquées par une certaine forme de permanence. Les saisons, les abonnements, la visite régulière d'un patrimoine, d'un musée, etc. Et on se rend compte que dans tous ces domaines de la vie culturelle très différents, l'événement a pris une importance croissante et devient pratiquement même l'alpha et l'oméga d'une politique culturelle. Les journées du patrimoine pour le patrimoine, les festivals pour la musique, mais aussi pour le théâtre, les arts de la rue, etc. Donc, la littérature, les sciences humaines, il y a des festivals de géographie aujourd'hui, donc on sort même de la culture. La question que ça pose, l'enjeu auquel il faut réfléchir, c'est de savoir si les festivals sont le couteau suisse de la culture, c'est-à-dire s'ils peuvent assurer toutes les fonctions qu'on accorde en général à une politique culturelle. Est-ce que les festivals, alors qu'ils sont temporaires malgré tout dans le temps, même s'ils se dilatent, est-ce que ces festivals temporaires sont bien armés pour avoir des politiques culturelles ou développer des outils culturels en direction des secteurs sociaux défavorisés, en direction des secteurs éducatifs? Est-ce que les festivals sont particulièrement bien adaptés pour remplir ces fonctions de lien social, éducatif, d'animation territoriale sur l'année? C'est toute la question, et mon avis, c'est qu'il faut réfléchir à l'articulation mieux entre événementialisation d'un côté et d'autre part permanence culturelle, sociale et artistique.
Merci Emmanuel Négrier. Pour en ajouter à la crise des politiques culturelles publiques, à la marchandisation que vous évoquiez, à la standardisation aussi des musiques proposées, beaucoup ont dénoncé récemment la présence de grands groupes qui donnent de plus en plus de fil à retordre aux petites entreprises mixtes, celles qui combinent des énergies privées et publiques. On en parlera en deuxième partie à 8h15 après le journal. Restez avec nous Emmanuel Négrier. On sera rejoint par Angelo Gopi, directeur France de Live Nation, numéro 1 mondial de la production de concerts. C'est l'organisateur, entre autres, du festival Main Square d'Arras, de Lollapalooza à Paris ou encore du Paris Summer Jam.